Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 147. Et aujourd'hui, on continue notre conversation avec Myriam Jessier pour parler de pivot entrepreneurial.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que je vous trouve en pleine forme. Moi, je le suis parce que je vous présente aujourd'hui la deuxième partie de l'entrevue que j'ai faite avec Myriam Jessier de Pragme, l'entreprise en ligne qui vous aide avec votre SEO. Myriam Jessier, qui est une habituée sur le podcast L'Ambition au féminin et avec qui j'ai eu une conversation que j'ai pas encore eue sur le podcast, en fait, sur un sujet qui n'a pas été traité sur le podcast et qui est le fameux pivot entrepreneurial. Puis ça vient vraiment à temps, cette conversation, parce que moi-même, ben, j'en ai vécu plusieurs, des pivots dans mon entreprise, mais le plus récent, c'est notamment le moment où j'ai décidé de fermer mon programme phare Money Brand, qui était mon money maker pendant les deux dernières années, et de transiger vers un nouveau programme qui avait besoin de naître et qui s'appelle Autopoésis. Et ce pivot-là, j'en parle un petit peu dans l'entrevue aussi, Myriam partage aussi les différents pivots qu'elle a fait dans son entreprise, parce que c'est important de se rappeler qu'en tant qu'entrepreneur, ce genre de flexibilité-là, cette agilité-là, c'est quelque chose qu'on développe avec le temps, mais qui devient nécessaire, parce que plus on vise la longévité, plus on vise d'avoir une entreprise pendant de nombreuses années, mais les pivots vont devenir inévitables. Alors, si vous ne savez pas encore c'est qui, Myriam, elle est diplômée de la Sorbonne. J'aime toujours lire les bios que les gens me fournissent parce que c'est les infos qu'elle préfère mettre de l'avant. Mais elle est diplômée de la Sorbonne où elle a été diplômée en sociologie et aussi en relations internationales, spécialiste du monde anglophone. Mais dans sa vie, sa carrière consiste à optimiser les sites web pour les robots, les humains et tout ce qu'il y a entre les deux, parce qu'on ne veut pas quand même briser le cœur d'Alexa. Donc Myriam a une approche très, très pointue et une compréhension très pointue de ce que c'est une marque et comment la communiquer sur les différentes plateformes du web. Puis on parle de réseaux sociaux, mais on parle aussi de comment établir cette marque-là au niveau de notre positionnement sur les moteurs de recherche. Et c'est d'autant plus important quand on est en période de pivot, de réfléchir à qu'est-ce qui va arriver avec les anciens positionnements qu'on a établis. Donc, je vous laisse avec cette deuxième partie de l'entrevue. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous encourage à le faire parce qu'on fait des mentions à cette conversation-là. Je vous encourage à aller écouter la première partie puis revenir pour écouter cette deuxième partie-là, la première partie qui a été publiée juste avant celle-ci. Donc, vous allez la trouver sans problème. Ou sinon, allez dans les notes de l'épisode où je vais glisser le lien. Sur ce, ben, je vous souhaite une super belle écoute et comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus, vos réflexions sont les bienvenues. On est dans un dialogue, une conversation et on a hâte de savoir ce que vous en pensez, vous, des pivots entrepreneuriaux. Allô, allô Myriam, re-bienvenue sur l'Ambition au féminin. J'espère que tu vas toujours bien.
Toujours, toujours, je suis là pour profiter du chaos et discuter de comment est-ce qu'on tire notre épingle du jeu.
Génial! Alors pour celles qui suivent un peu les épisodes, il y a une partie 1 à cet épisode qu'on a enregistré il y a littéralement une heure, mais que vous allez pouvoir trouver là, dans les notes de l'épisode si vous voulez aller l'écouter avant d'écouter celui-ci, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont probablement être la continuation, la suite logique, des réflexions qui sont à ce sujet-là. Et aujourd'hui, la thématique dont on voulait discuter ensemble, c'était autour des pivots. Hein, dans notre première intervention, on a parlé davantage de la marque, de l'évolution de la marque en date d'aujourd'hui dans un contexte de surinformation. Puis aujourd'hui, on voulait parler vraiment de qu'est-ce que ça veut dire vraiment pivoter, parce que, puis tu me diras si c'est la même chose pour toi, Myriam, j'ai l'impression que il y a des gens qui ont le pivot très rapide et peut-être trop rapide, et il y en a d'autres qui auraient intérêt à pivoter, mais qui ne le font pas. Fait qu'il y a comme une question de timing qui est quand même difficile à aller juger. Et que surtout quand on parle de positionnement, ben c'est vraiment important de penser à qu'est-ce qui arrive quand on doit ajuster puis quand on doit changer de cap.
Absolument. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Il faut avant tout comprendre. Est-ce que vous êtes plus un paquebot comme le Titanic? Ou est-ce que vous êtes plus comme la petite frégate, le petit bateau viking qui est sur les mers? Pourquoi? Parce que faire pivoter un paquebot, ça ne se fait pas de la même manière que quand on a la petite frégate, quand on est vraiment le petit bateau viking. Donc déjà, de base, quand on va parler de pivot, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et en plus de ça, il y a des gens qui sont plus ou moins résistants au changement, parce que le changement, ça fait peur. Donc, c'est comme des investissements, là. Il faut se poser la question, est-ce que je suis un investisseur un petit peu plus apte à prendre des risques? Est-ce que je suis vraiment conservateur? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce qu'on pivote? Le nombre de fois où on me dit, ah ben, on va faire ça parce que tout le monde le fait, je dis, bah, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait l'envisager.
Ouais, puis à quel point tu penses qu'il y a une intuition entrepreneuriale là-dedans? Tu sais, comme toi, par exemple, point de vue stratégie versus l'intuition, tu le vis comment?
Alors, je ne suis pas le type de personne qui croit à l'intuition féminine comme concept universel. Okay. Pour moi, l'intuition, c'est quoi? C'est la somme de mes expériences qui font qu'il y a mon esprit, ou, enfin, moi, c'est pas mon esprit, c'est genre quelque part dans mon estomac, là, le dernier tiers de l'estomac, qui me signale « il est temps ». Et ça, c'est très important parce que l'entreprise que j'ai lancée n'est pas l'entreprise que je mène aujourd'hui. Ce que je faisais il y a 8 ans, je ne le fais plus nécessairement de la même manière. Je ne le fais plus nécessairement pour les mêmes personnes. Ou tout simplement, je ne le fais même plus. Donc ça, c'est très, très, très important parce que si vous avez l'habitude de calibrer en permanence les objectifs d'un projet avec les contraintes du contexte, vous avez tout compris sur le pivot. Ça veut dire que vous allez peut-être vous retourner et faire « Mais en fait, j'ai déjà pivoté plusieurs fois avec succès. » Ah bah c'est de ça dont on parle. Si c'est vous, bravo. Si c'est pas vous, c'est pas un problème. Que ce soit Persona 1 ou Persona 2, on a des choses pour vous.
Tout à fait. Puis j'aime cette question de calibrer avec les contraintes du contexte. Puis là, on parle ici de l'environnement, si on veut juste utiliser un autre terme. Puis dans l'environnement, ben encore une fois, hein, on est des organismes et on va réagir à notre environnement. Puis moi, j'aime voir les business comme des organismes vivants qui, eux aussi, réagissent à leur environnement. Puis, à quelque part, ceux qui sont capables de s'adapter vont survivre naturellement, mais ceux qui sont trop lents à s'adapter ou qui sont pas capables de s'adapter, ben eux, probablement, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Fait que, tu sais, quand moi, je parle du moins d'intuition, il y a quelque chose de cette intelligence entrepreneuriale-là, oui, qui est capable de capter les signaux de l'environnement. Puis c'est drôle parce que, on en reparlera peut-être plus tard, là, mais je suis en train de lancer un nouveau programme, puis le terme que j'ai choisi pour le titre de mon programme, c'est autopoïèse, qui est la capacité d'un système à s'autoréguler et à genre constamment retrouver l'équilibre dans des environnements changeants, justement. Puis qu'il y a quelque chose dans la business genre qui doit être capable, tu sais, bâtir des business résilientes, c'est bâtir des business qui sont capables de faire ces pivots-là.
Est-ce que tu as déjà été faire des petites courses, tu sais, de... c'est pas des formulaires, là, mais les petits go-karts.
Des go-karts, ouais.
Oui. Mm-hmm. Donc, quelle ligne, quelle lane tu choisis, toi, quand tu en fais?
Ah, ben là, je ne sais pas.
Eh bien, figure-toi qu'il y a, statistiquement, une des lanes qui est plus simple à gérer, qui est plus courte et qui te permet de gagner selon la façon dont tu le gères, en fait.
Okay.
Donc, on ne parle pas ici de Formule 1 professionnelle, tout ça. Mais on parle de si tu es un conducteur de base qui ne sait pas nécessairement gérer, selon ton style de conduite, tu vas trouver quelque chose qui te va le mieux ou tu as beaucoup plus de chances de gagner que d'autres lignes. Donc, ça, c'est le premier point.
OK, le mais c'est laquelle point. Je veux savoir maintenant. Il faut que je choisisse laquelle.
Pour moi, ça remonte à il y a pas mal de temps. Donc, j'ai peut-être tort, hein. Parce que c'est mes souvenirs d'enfance. Mais moi, je prenais la ligne à l'intérieur parce que c'était
ouais,
plus
simple. Oui, mais c'est ce que j'aurais pensé. Parce que tu as une balise gauche qui te permet... Bref.
Non, mais attends, parce que c'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre élément qui est très important. C'est comment est-ce que tu négocies ton tournant? Donc, la plupart des gens s'imaginent tout le temps qu'un pivot, il faut le faire quand les choses commencent à aller mal depuis un petit bout. Non! Les meilleures entreprises qui font face, c'est celles qui savent comment se préparer à prendre le tournant à gauche, là, qui va être raide, et qui se préparent bien à l'avance pour faire face aux autres forces qu'on va rencontrer pendant qu'on prend le tournant. Donc, je te vois hocher de la tête, dis-moi ce qu'il y a dans ta tête, toi.
Ben, ce qu'il y a dans ma tête, c'est que, justement, mars passé, moi, j'ai eu un fort signal qui m'est venu. Money Brand allait bien. Les clients étaient contents. On avait terminé, ça a pris 2 ans, genre, vraiment roder tout le système à l'intérieur. On était passé en mode cohorte. Et j'ai eu ce feeling là, intuitif dans le ventre qui m'a dit, il faut que je ferme le programme. Du moins dans sa version où elle était actuellement. Pour créer ce nouveau programme. Puis pour moi, c'est devenu comme un peu une obsession. Mais il y avait, tu sais, d'un point de vue... sur les livres. Puis encore une fois, le futur va nous dire si j'avais raison ou tort, mais je reste persuadée que c'est le bon move parce qu'il y a des signaux qui me sont venus que le marché avait été en train d'évoluer ou qu'il y avait des changements ou des perturbations dans le marché. Hein? Puis moi, mon marché, on en a parlé, hein? C'est le marketing, c'est le coaching business, c'est le monde des petites entreprises, des solopreneurs. Et j'ai fermé avant de voir des signes de ralentissement. Ben fermé, j'ai entamé le pivot avant de voir les signes de ralentissement. Puis pour moi, c'était tellement clair de dire « si je le fais pas maintenant, je vais être en retard ».
Alors, ça nous amène à un point très important parce que ce que tu viens de décrire de manière très... concrète qui connecte avec des êtres humains, il y a une jolie phrase qui peut être utilisée pour normaliser, pas normaliser, mais généraliser la déclaration à tous les gens qui nous écoutent. Si vous maintenez un état constant d'opportunisme, donc on reste ouvert aux opportunités, et une volonté de pivoter, eh bien là, on se retrouve future-proof. C'est qu'on guette les opportunités, mais on s'assure aussi de pivoter, donc d'avoir cette volonté de changer. Mais attention, comme tu l'as dit, ce n'est pas à n'importe quel moment. On a la volonté de pivoter lorsque les progrès ou les gains sur la voie actuelle diminuent. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de progrès tangible qui connecte avec notre gut feeling, avec notre intuition, on sait qu'on a un risque de stagner. Et que stagner, ça mène, voilà.
Exact. Puis je pense qu'ici, les gens vont peut-être penser que progrès, c'est juste faire de l'argent ou faire plus d'argent.
Non.
Alors que progrès, c'est un mouvement. C'est juste qu'on ressent une stabilisation qui est en train de se mettre en place. D'où la thématique un peu de ce dont on voulait discuter aussi, là. Mais c'est qu'il y a une période de stabilisation qui est en train de s'entamer ou de se compléter. En général, c'est pas au moment où elle est complétée qu'on entame le prochain pivot parce que quand on entre en stabilisation, on perd du momentum. Donc, quand on dit que il y a un... les progrès ou gains sur la voie actuelle diminuent, je dirais quasiment c'est le momentum est en train... On est en train de perdre de l'énergie du momentum.
Oui.
Et cette énergie doit être comme réinvestie pour donner un prochain push à l'entreprise.
Ça, c'est un autre terme qui est très important, c'est l'entropie. C'est la force du chaos, c'est l'énergie qui est gaspillée, entre guillemets, l'énergie qu'un système ne peut pas utiliser. C'est le chaos par définition. Et si on laisse l'entropie trop grandir, c'est qu'on a un problème. Mais si on est tellement systématique qu'il n'y a quasiment pas d'entropie, s'il n'y a pas de chaos, on ne peut pas voir ce qui en émerge non plus. Donc, on se retrouve aussi potentiellement à stagner parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va penser et repenser le statu quo et proposer des évolutions. Donc, c'est là où c'est un petit peu compliqué de se dire, mais est-ce que je pivote? Quand est-ce que je pivote? Pourquoi est-ce que je pivote? Puis, comment est-ce que je m'assure que ça soit un succès, en fait? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on se retrouve à se dire, mettons, l'économie ne va pas bien, ou mettons, la mode ou la tendance dans laquelle je m'inscrivais est en décélération, ou tout simplement de se dire, bah, la notion de progrès, c'est pour soi-même aussi, de dire, j'en ai marre de faire toujours la même chose, j'en peux plus, ça m'ennuie, et ça ne m'apporte pas de bonheur. Donc, tout ça, c'est super, super important, et c'est quelque chose qu'on remarque, pour moi en tout cas personnellement, je le remarque au début et à la fin. Je le remarque au début quand je me dis « il est temps que je fasse quelque chose » ou le « quelque chose m'arrive » et je me dis « bon bah il est temps que ce quelque chose-là arrive dans ma vie ». Et ensuite je me retourne et je dis « ah ben tiens, j'en ai accompli des choses depuis le moment où j'ai décidé que X ». Mon premier gros pivot réel, et ça, je pense que ça va surprendre les gens parce qu'on pense tout le temps, le gros pivot, c'est « je me lance à mon compte ». Ça, c'était quasiment naturel. J'étais convaincue que ça allait s'arrêter un moment ou un autre. Tu sais, j'allais me lasser. Et en fait, non, parce que je n'ai pas arrêté de pivoter. Mais mon premier vrai pivot, c'était de me dire « je veux devenir formatrice. Il est temps pour moi d'enseigner ce que je sais aux gens ». Et ça, ça voulait dire pivoter mes services, donc le fait que je fais des audits, de l'accompagnement, tout ça, vers plus de la formation. Donc, repenser la nature des savoirs que j'avais dans un contexte qui était autre, avec des opportunités qui étaient autres. Donc, bien entendu que j'allais progresser. Bien entendu qu'il allait avoir des gains. Mais après, on se dit, ok, et comment est-ce que je pivote? Comment est-ce que je fais ça? Et c'est là où je vais dire, bon ben, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent de notre série. Ça va vous donner une très bonne idée de à quel moment est-ce que votre marque devrait pivoter.
Tout à fait. Puis, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que pivoter, c'est comme drastique, mais des fois, c'est changer un angle. Tu sais, c'est juste bouger l'angle de quelques degrés ou repenser. Par exemple, on a une offre qui était une offre secondaire, ben là, elle devient notre offre principale ou rentrer encore plus en profondeur dans quelque chose d'autre.
Je pense que c'est très important de ramener tout le monde avec le terme pivot. C'est qu'on n'est pas en train de dire demi-tour, on n'est pas en train de dire reboot, on n'est pas en train de dire décollage, on est en train de dire pivot. On ne recommence pas au début, c'est pas le Monopoly où on bypasse la case départ et on va en prison d'office. On est en train de pivoter nos opérations parce que on veut s'aligner ou se réaligner vers des opportunités et vers un progrès. Et le progrès peut être financier, il peut être personnel aussi, parce que se lever le matin et travailler pour quelque chose dont si on n'y croit pas ou si on est fondamentalement contre, même si ça fait de l'argent, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc, toutes les raisons de pivoter, elles sont valides si elles sont bien examinées et qu'il y a effectivement quelque chose qui s'ancre dans la notion d'opportunité et de progrès.
Puis, Je suis vraiment contente qu'on ait cette conversation. Parce que je pense que ça démontre aussi, tu sais, toi, ça fait 8 ans que t'es dans ton entreprise. Moi, ça en fait 7. On en a vu, tu sais, on en a passé plusieurs des pivots, puis ils ont pas nécessairement eu tous... je sais pas, je pense qu'ils ont tous été conséquentiels dans notre évolution, là. Je pense pas qu'il y a des pivots non nécessairement, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut se rappeler, c'est que le pivot est interdépendant de l'environnement, puis de ce qui se passe dans la... Tu sais, comme par exemple, pendant la pandémie, il y a des gens qui ont pivoté, mais c'était un pivot forcé, tu sais. Mais on va toujours être en train de s'adapter à ce qui vient de l'extérieur, puis ça peut être des situations dans notre vie personnelle aussi, puis des choses comme ça.
Tranche de vie, très sincère. J'ai mis des années, je voulais tout le temps lancer un cours en ligne. J'étais bien en avant sur les tendances du marché et je ne croyais pas en moi. Et ensuite, j'ai vu d'autres personnes en lancer. Et le temps que je lance le mien, en fait, je me suis rendu compte que les cours que je donnais en présentiel me ramenaient trop d'argent pour que je cannibalise mon offre avec une formation en ligne, qu'il y avait déjà pas mal de formations en ligne, et je voyais aussi que la tendance au loin de « Ouh, le marché, il a l'air trop saturé », à un moment ou un autre, là, ça va commencer à baisser. Donc, des fois, on va arriver à se dire « Mais en fait, je l'ai raté, mon pivot ». C'est même pas qu'on a pris le pivot, on a pris le tournant et qu'on n'a pas réussi, ou que c'était un mi-cuit de réussite. Des fois, on le rate et on se sent super mal. Et on attend un petit peu, et l'opportunité de pivoter telle qu'on l'envisageait, peut-être que c'est plus le même sujet, peut-être que c'est pas le même format, peut-être qu'il y a une variable qui a changé, mais tout d'un coup, elle est de nouveau sur la table. Mm-hmm. Donc, il faut pas voir les pivots comme étant des opérations à perte. On apprend toujours, même si le pivot, on le rate potentiellement, ou si il ne marche pas.
Tout à fait. C'est y a un livre de Nassim Nicholas Taleb dont je parle souvent qui s'appelle Antifragile. Puis pour moi, c'est pas juste une entreprise résiliente dans le fond qui va comme être capable de... tu sais, le concept d'antifragilité, c'est pas juste d'être capable de prendre les coups, c'est d'être capable de redevenir un système qui progresse justement à travers le chaos et à travers les changements.
Et j'ai un point important aussi quand on analyse les pivots qu'on a fait ou qu'on veut faire. Il y en a un qui est très simple, parce qu'on pense tout le temps que le pivot, il va y avoir une épiphanie où on va avoir genre un moment à regarder le soleil et dire oh, « ça va arriver ». Moi, je sais que j'ai eu des moments comme ça où j'ai explosé en sanglots absolument misérables devant le Colisée à Rome alors que ça aurait dû être un moment romantique. Et ben, j'ai appris que ces épiphanies-là, que les autres se les gardent, moi j'en veux pas, j'aime bien des pivots en douceur qui font du sens. Donc, un des pivots les plus simples, c'est si vous vous retrouvez avec beaucoup de monde qui vous demande la même chose et que vous aimez faire ça, peut-être que ça c'est un pivot à prendre. Ou peut-être que c'est une offre secrète, comme les menus de burgers secrets ou les menus Starbucks secrets, que vous réservez à certains clients jusqu'à ce que l'offre elle soit rodée et vous vous dites, bon ben, finalement, je sais à qui j'offre ça, pourquoi, comment, et je me lance. Donc, il y a un élément qui peut être aussi extérieur. On voit que les gens nous le demandent, nous mandatent pour ça. Alors, autant saisir l'opportunité. Si votre réseau se montre intéressé par ces services supplémentaires, vous n'avez pas de problème pour pivoter parce que c'est une réponse à l'évolution des priorités du marché. C'est cool.
Tout à fait.
Mais des fois, ça vient de l'intérieur. Hein. Tu le disais toi aussi, tu as beaucoup de pivots qui viennent de l'intérieur. À quoi ça ressemble pour toi?
Ouais, des pivots de l'intérieur, ben c'est souvent en relation à ma propre charge de travail, hein, de dire si je... Tu sais, genre ça... Puis j'ai enregistré un autre épisode avec Hélène Sarah Bécotte où on parlait de capacité d'un modèle d'affaires, hein. Des fois, on se rapproche de la capacité d'un certain modèle d'affaires, puis on voit comme, ben, si je voulais vraiment atteindre mes objectifs, il faudrait que je travaille beaucoup plus que ce que ma santé me le permet. Moi, des pivots intérieurs, ça a été souvent aussi mes propres évolutions, hein. Il y a des choses que j'offrais au début parce que j'étais en confiance, mais ma confiance a grandi avec le temps. Et puis là, je me suis dit, ben ça s'aligne davantage avec ce que j'ai envie de montrer de moi. Fait que, tu sais, ça peut être des choses très, très internes aussi. Puis j'aimais ce que tu disais parce que je pense qu'il y a aussi deux types de pivots où on pivote par rapport à un service qui est déjà validé, hein, comme quelque chose oui. qu'on a un besoin qui s'est fait ressentir ou on l'a déjà testé avec notre marché versus pivoter vers une sophistication de nos offres ou du marché. Puis là, moi, je donne un exemple. Moi, j'ai fait les deux. Dans un premier temps, j'ai beaucoup pivoté, comme par exemple, du coaching en individuel que je faisais sur le positionnement de marque, c'est devenu Money Brand. T'sais, tout ce que j'avais créé dans ces... Puis après ça, j'ai pivoté vers un modèle d'affaires différent, mais la thématique, les sujets, les contenus étaient relativement semblables. Mais là, maintenant, le pivot que je suis en train de faire, c'est un pivot vers une sophistication du marché, donc quelque chose que je considère que mes clients ou qu'il y a suffisamment de signaux dans l'environnement pour me dire il y a suffisamment de clients qui sont rendus à ce degré de maturité-là pour être capable de désirer ce que je veux leur offrir. Donc ça, c'est vraiment plus un pivot de sonde, où est-ce qu'on dit comme je mets mes jetons sur ce type de développement dans le marché, puis je me positionne comme une des premières qui va faire ce pivot-là.
Et c'est ça, ce que tu amènes, en fait, c'est excellent parce que ça me permet de parler d'un autre type de pivot et d'expliquer aussi pourquoi est-ce que les gens, ils ont souvent peur de pivoter. C'est qu'un pivot bien fait, à la fin de la journée, et là, c'est un argument quand même qui est un petit peu... toi, je sais qu'il va résonner avec toi, mais pour les gens qui ne comprennent pas, posez-vous, regardez votre offre et je vous challenge d'essayer de cannibaliser votre offre. Donc, la problématique, en fait, c'est qu'on se dit tout le temps... Je veux pas mettre en péril ce que j'ai déjà. C'est qu'on a une aversion à la perte potentielle. On préfère ne pas gagner plutôt que perdre. C'est quelque chose d'humain. Mais pivoter, ça veut dire surmonter ça. Parce que un chiffre d'affaires peut augmenter grâce à la cannibalisation. Parce que la cannibalisation produit, c'est le remplacement d'un produit par un nouveau produit de la même entreprise. Et on peut cannibaliser différents angles. Donc c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. C'est que je faisais référence dans l'épisode précédent, donc n'hésitez pas à aller le checker, où je disais, ben, un audit avec moi, ça coûte plusieurs milliers de dollars. Et tout d'un coup, pour un quart du prix, je cannibalise mon audit. Pour un quart du prix, donc réellement, j'allège le prix en offrant un autre format d'audit. Mais cet autre format, il va parler à d'autres personnes où j'ai découvert qu'il était utilisé de différentes manières. Donc, c'est un outil pour d'autres choses. Donc, on peut cannibaliser le prix comme Netflix le fait. Donc ça, on en a déjà tous et tout entendu parler. Mais on peut aussi cannibaliser littéralement l'offre en changeant le livrable, en changeant la forme, en changeant l'audience. Donc, on peut jouer sur différentes variables et pivoter grâce à cet esprit de cannibalisation, qui est un mot quand même qui fait peur. Hein?
Oui, ça fait peur, mais des fois, c'est très nécessaire. Hein? En littérature, dans l'écriture, ils parlent souvent de « kill your darlings hein? », oui. Assassiner vos chéris, parce que... c'est dans un roman ou dans un livre, un narratif, souvent, c'est ce qui va permettre de créer un plot twist ou un renversement de situation qui va ouvrir des nouvelles opportunités. Donc, en éliminant un canal qui a été normalisé, on crée un chaos créatif, en fait.
Nous, en tant qu'entreprise chez Pragme, on a pivoté à cause ou grâce à la cannibalisation intensive de Google. C'est qu'au début, il y avait Google Analytics Universal, donc le modèle que tout le monde connaissait très bien, qu'on aimait bien. Et très tôt, donc vraiment très 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 tôt, début 2021, on a commencé à offrir des cours en Google Analytics 4. Il n'y avait que très peu de demandes parce que personne n'était forcé d'apprendre ça. Ça allait mettre 2-3 ans avant que Google ferme tout ça, c'était annoncé, personne n'était pressé. On a décidé de s'engouffrer dans la brèche parce qu'on était les premiers. Donc maintenant, on est tous les deux, moi et Augustin, reconnus comme formateurs et formatrices GA4, en mode, ça fait très longtemps qu'on fait ça, on peut nous faire confiance. Mais en plus de ça, on a pu tester l'outil, grandir, voir quels sont les problèmes, tester avec les étudiants et les étudiantes. Mais là, qu'est-ce qui se passe, Tatiana ? Ben, on offrait quand même les cours Universal, donc on a cannibalisé, mais c'était planifié parce qu'on allait devoir prendre ce tournant. Mm-hmm. Puis voilà, on pouvait le prendre doucement ou de manière très abrupte et offrir des services pour les retardataires dernière minute. On a décidé, bien entendu, de faire les deux, de prendre le tournant tôt. Mais là, il y a un autre problème. C'est que la raison pour laquelle les gens ne voulaient pas passer à Google Analytics 4, c'est que tout le monde déteste l'interface, tout le monde déteste le nouveau modèle. Et qu'en plus, les données ne restent pas. Donc là, arrive un nouveau produit de la part de Google qui s'appelle BigQuery. Et tout d'un coup, ça nécessite des notions de programmation. Tu me vois arriver avec mes gros sabots. On est en train de pivoter en disant, bon, on offre encore les cours GA4, mais les gens qui veulent aller plus loin. Donc, encore une fois, la sophistication. On est passé de « je n'en peux plus de cette interface » à « je suis prêt à investir dans mes connaissances et aller chercher les données moi-même dans un équivalent de Dropbox, mais pour les données, moi comment ?» Donc, il faut bien comprendre que les pivots, ils peuvent être internes et externes en même temps. C'est qu'on reconnaît les opportunités du marché. On sait que, moi, dès que les gens se plaignent, j'aime pas ça, je veux pas le faire, je rigole parce que je sais qu'il y a une opportunité en tant que marketeuse de faire de l'argent. Il y a un problème, on le règle.
Salut les ambitieuses, je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, hein, les dernières années ont été rough pour beaucoup d'entrepreneurs. Pour certaines, ça a voulu dire de retourner sur le marché de l'emploi, pour d'autres, redéfinir ses offres ou changer sa clientèle. Et au cours des 8 dernières années, j'ai vu des centaines d'entrepreneurs motivés et pleins de talent obligés de fermer les portes par manque de rentabilité ou de momentum. Parce qu'on va pas se mentir, hein, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, il n'y a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans sa vision, peu importe les tempêtes qu'on rencontre au fil des ans. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ton énergie est limitée. Tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts. Et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton entreprise, même quand le monde est sans dessus-dessous. Cet hiver, je vais ouvrir les portes de mon nouveau programme signature, Autopoésis. Ça fait plus de 6 mois que je travaille sur cette hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire travailler dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement, t'es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Rejoins la liste d'attente pour être aux premières loges lors de l'ouverture des inscriptions et profiter des rabais, bonus et autres goodies que je réserve à la première cohorte qui bénéficiera du prix le plus bas auquel le programme sera vendu. Pour t'inscrire, c'est facile, rends-toi sur aimetamarque.com/AP, aimetamarque.com/A comme Annie et P comme Papa, et entre tes infos. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. All right, ma chère, c'est à aimetamarque.com/AP. Oublie pas que si tu cherches le lien, il est dans les notes de l'épisode. Et maintenant, de retour à notre émission.
Tout ça pour dire que les pivots, on y réfléchit, mais des fois, on n'y réfléchit pas et on se retourne et on dit « Ah ben finalement, j'en ai fait du chemin ». Donc moi, je vais revenir sur une petite notion quand même au niveau de l'impact de la cannibalisation. C'est que, comme tu l'as dit, « kill your darlings ». Mais pourquoi ? parce que ça permet de changer le positionnement d'une marque. On peut passer en, mettons, entrée de gamme à premium. Ça, c'est quelque chose qui arrive pour beaucoup d'entre nous. Ça change aussi les industries et les clientèles. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a certaines niches dans lesquelles on s'est spécialisé avec un réseau spécifique et donc on a d'autres clients. C'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Ça change le prix, ça change la perception de la marque. Donc, la cannibalisation qui est un des pivots les plus personnels à la fin de la journée, des choses qui ne viennent pas nécessairement de l'extérieur, c'est des choses qui nous permettent de nous transformer et qui nous permettent de progresser.
Ouais, puis je vais juste rajouter aussi pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que comment moi je le rappelle toujours à mes clients, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un infinite game. C'est un jeu infini où l'objectif, c'est pas d'atteindre X chiffre d'affaires ou X nombre de clients ou peu importe, mais vraiment, ou d'avoir la position numéro un sur Google, mais vraiment de rester dans la game le plus longtemps possible. Puis c'est impossible de penser à une game de, disons, 10 ans, comme nous, bon, on va approcher les 10 ans bientôt, où il n'y a aucun pivot, où il n'y a aucun changement de cap, parce que ça voudrait dire que l'environnement dans lequel on est, ou notre environnement interne, est statique, ce qui est complètement faux. Il y a toujours une évolution.
Et quand on réfléchit à notre pivot, donc il faut vraiment y réfléchir et l'exprimer. Quand on communique les éléments qui sont liés au pivot pour nous permettre de réussir en disant « je veux aller de là à là et offrir ça », eh bien, on peut transformer une liste de services qui sont assez vagues en propositions claires comme de l'eau de roche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je sais à qui s'adresse l'offre, le problème que ça va résoudre et en quoi consiste mon service, comment est-ce qu'il fonctionne ? Quelle forme il va prendre, en fait? Et ça, c'est quelque chose, au début, c'est une expression que j'utilise quand j'explique aux gens. J'ai construit mon business en disant oui. Mmh. Quand j'étais dans mes débuts, tu veux faire ça? Oui. Tu veux optimiser? Oui. Oui. Et j'ai construit ma marque en disant non.
Mmh.
Et ça, c'est très important. Ça sous-entend les pivots qu'on prend dans la vie, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement expliquer très, très bien, toi et moi, parce qu'il faut avoir survécu à une première vague de pivots pour avoir cette confiance entrepreneuriale et dire, bon, le prochain tournant, là, je sens, j'ai l'intuition de le négocier. Donc, ce que je conseillerais avant tout, c'est de ne pas avoir peur de prendre un pivot, de le faire de manière très intelligente en disant « j'ai vu qu'il y avait de la demande » ou « par expérience, je sais que si je prends ce tournant-là, si je fais ce pivot, ça va être bénéfique pour moi pendant quelques années, ça va me permettre de créer un tremplin pour progresser encore plus loin.
Mm-hmm. » Oui, puis je pense que ça fait le lien aussi avec notre épisode de la dernière fois, parce que comment est-ce qu'on fait pour développer cette intelligence entrepreneuriale-là, selon moi, ça passe beaucoup par vraiment bien comprendre notre marque et notre positionnement, parce qu'on ne peut pas faire un pivot si on sait pas on est où sur la map. Ouais. On ne peut pas faire un pivot si on n'est pas capable d'établir les coordonnées précises où on est, puis de dire, OK, ma stratégie, ça va être de pivoter de 15 degrés. on peut le faire à l'œil comme ça, mais il y a beaucoup plus de risques qui sont investis là-dedans en disant, là, on rentre dans ce qu'on appelle aussi lancer des spaghettis au mur. Lancer des spaghettis au mur, c'est des pivots, mais c'est pas des pivots intentionnels. Puis avec des pivots pas intentionnels, ce qui arrive, c'est qu'on va dépenser de l'énergie. Puis là, je pense à tous les clients qui disent comme, OK, je m'étais donné un an pour faire 100 000, j'ai pas fait 100 000, il faut que je change toute mon offre, puis mon système, puis mes écosystèmes. Puis là, c'est comme, non, j'en sais que, un, t'as peut-être pas laissé assez de temps à ton système de se stabiliser. Deux, il y a quelque chose que tu n'as pas compris sur ton positionnement, tes clients, ton désir, et à ce sujet-là, allez écouter l'autre épisode qu'on a enregistré avec Myriam. Ou trois, tu sais, t'es en trauma response parce que là, tu veux juste utiliser ce momentum puis cette énergie pour tout détruire puis tout reconstruire, tu sais, comme un enfant qui dit genre « Ok, j'ai bâti un château, maintenant je vais comme complètement le détruire puis en recommencer un. » Puis là, ça, c'est pas de l'entrepreneuriat stratégique, c'est même de l'entrepreneuriat comme destructeur, tu sais.
Et un pivot, ce n'est pas courir après la dernière tendance parce que les autres le font. Si c'est déjà une tendance que tout le monde fait, c'est que vous avez déjà raté le tournant.
Exact.
C'est qu'il y a encore peut-être de la place si vous avez un bon différenciateur de marque, un positionnement vraiment unique. Mais si c'est pour faire du générique ou si c'est pour faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait, mais mettons 20% mieux, ce ne sera pas suffisant. Ce n'est pas un pivot.
Comment tu détermines quand le pivot... Ben, parce que tantôt, on a dit, puis t'as dit, tu sais, il n'y a pas nécessairement de pivots qui m'ont servi à rien, puis des choses comme ça, mais est-ce que tu considères que des fois, il y a des pivots qui sont ratés, entre guillemets, ou qui...
Oui, alors, j'en ai vu des pivots absolument spectaculairement ratés. Hein. Pour moi, un des pivots qu'on pourrait traiter d'expansion les plus ratés au Canada, c'était Target. Ils n'ont rien compris au marché. On ne voulait pas Target pour Target. On aimait Target parce que c'était des bons produits qui étaient le fun et qui étaient disponibles et à un prix abordable. Si tu vas nous donner une expérience canadienne qui est impactée négativement parce que les produits ne sont pas là, les prix ne sont pas là, il n'y a rien qui est là de l'essence de la marque Target, ce à quoi on s'attend au niveau de l'expérience, bien sûr que ça va rater. J'ai eu aussi des entreprises qui me disent « on va se lancer en France » et je les prévenais parce que je disais « votre marque, votre ADN, c'est d'être drôle. » Toutes les blagues que vous avez au Québec qui sont drôles, c'est zéro ce qui va se vendre en France. « Non, non, mais on va s'adapter. » Je leur ai dit, je les ai prévenus. « Faites attention, le marché français, l'humour, n'est pas du tout le même. » Donc, ce qui est votre pilier de marque dans un coin du monde ne sera pas un différenciateur, ça va être un alien ailleurs. Il faut faire attention au pivot et toujours se dire, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je vais pouvoir me différencier? Ou est-ce qu'on se pose la question de, bon, on voit un trou dans le marché, on va pouvoir se caser. Se caser et faire sa place, c'est deux choses très différentes en fait. Un pivot, c'est réellement faire sa place, c'est de tourner un petit peu et de se réaligner sa marque pour aller plus loin.
J'avais une question, attends, qui m'était venue, puis je me demandais, bref, ça va me revenir.
Les pivots manqués. À quoi ça ressemble à un pivot manqué? Eh bien, pour moi, en fait, il y a beaucoup de pivots qu'on va juger comme étant manqués à l'interne, mais ça ne se verra pas à l'extérieur. Mais la plupart des pivots ratés et spectaculaires en public, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a ignoré beaucoup de signaux, des gros red flags, pour quand même lancer la patente.
Ouais, c'est ça que je voulais dire. Merci d'avoir repris ça au vol. C'est que, encore une fois, comme on en a parlé dans le dernier épisode, je crois que les pivots ratés ou les pivots qui n'ont pas lieu d'être, c'est quand on a perdu de vue qu'on est au service ou qu'on est... on est devenu self-conscious. On est devenu conscient de soi et de ses propres intérêts au lieu, genre, de rester à l'écoute de la transformation du désir de notre client ou de son évolution en maturité. Parce que, jusqu'à un certain point... Beaucoup de pivots, je pense que beaucoup de gens vont faire un pivot quand ils sentent « on fait pas assez d'argent ». Il y a comme un état de panique, genre, tu sais, où est-ce qu'on doit, on doit pivoter, sinon on va devoir mettre des gens dehors ou X, Y, Z. Naturellement, c'est un pivot trop tard. Il y a encore façon, genre, de sauver la barque, seulement si on est capable de redevenir très intentionnel et très à l'écoute du marché. Mais là, ce qui arrive quand on fait un pivot trop tard, c'est parce qu'on a perdu, tu sais, on a levé notre oreille du sol, puis on n'est plus en résonance avec le marché.
C'est pas seulement la résonance avec le marché, c'est aussi l'alignement avec son image de marque. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être fait très bien, sinon ça ne marche pas. Un exemple concret de ça, c'est comment est-ce qu'on est capable de se cannibaliser sans nécessairement perdre sa crédibilité. Donc les marques de haute couture font ça relativement bien. C'est qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait pas mal de monde qui adorait porter des logos, ce qui permet de faire de la publicité pour les marques. Et les marques de haute couture, pendant très longtemps, ont refusé de faire des produits moins chers en disant « on ne veut pas perdre notre capital de marque ». Et tout d'un coup, les marques se sont rendues compte, en pivotant et en offrant des ceintures, des t-shirts, des portefeuilles, que mettre son logo dessus permettait en fait de pivoter avec un autre segment de la population. Et ces gens-là, parmi certains et certaines qui achètent ces produits moins chers, il y a aussi des gens qui sont suivis par d'autres clients, que ce soit des clients avec beaucoup de moyens, parce que c'est des influenceurs, influenceuses, ou des gens qui veulent acheter aussi la marque tout court, veulent un point d'entrée. Donc c'est là où on peut souligner que ça cannibalise bien les produits, ce pivot. Et j'ai un de mes amis qui faisait une référence à ça en disant « J'ai voulu m'acheter un portefeuille Louis Vuitton et la version sans le logo coûtait plus cher que la version avec logo.
Mmh. »
C'est cette notion, encore une fois, de « quiet luxury » ou pas, ouais, etc. Donc, il y a des marques qui pivotent très mal aussi. Donc là, je vais utiliser un exemple de la haute couture aussi. C'est Gucci. Donc Gucci, en ce moment, la blague, c'est que la marque est en train de descendre en termes de capital parce que de plus en plus de gens disent « Gucci, c'est l'idée que les gens avec moins de moyens ont de ce que les gens riches portent. »
Ouais, c'est comme ce qui est arrivé avec Michael Kors. Même, j'ai l'impression qu'il y a des marques qui ont été démobilisées de leur statut de luxe vers quelque chose d'un peu plus...
Et c'est la notion pour moi, c'est la notion de expansion ou pivot. Est-ce qu'on continue à s'étendre parce qu'on vaut le coup ou est-ce qu'on essaye de pivoter et d'aller attraper d'autres choses, mais ça n'a pas été réfléchi. Ce tournant, il part un peu dans tous les sens, on part dans le décor parce qu'on n'est plus aligné sur les besoins du marché et on n'est plus aligné sur notre image de marque.
100%. J'ai une question plus technique un peu pour toi. Comment tu vois, puis j'utilise le terme collatéral marketing pour parler de tout l'écosystème marketing comme les actifs de marque. T'sais, on a parlé de capital de marque, mais là, parlons d'actifs de marque. Quoi faire avec nos actifs quand on pivote? T'sais, qu'est-ce que, surtout toi qui travailles en SEO, t'sais, puis on sait qu'on a toute une historique genre de recherche derrière nous, on a gagné certaines positions dans certains marchés, ben qu'est-ce qui arrive au niveau de cette transition-là?
Alors, c'est très important de communiquer avec les machines et les humains. Qu'est-ce qu'on fait et qui on est? Donc, si, par exemple, moi, je publie des articles qui sont liés à Shopify ou e-commerce, ils vont vite se positionner parce que Google a déjà reconnu que j'ai publié plusieurs articles là-dedans. Pareil dans Google Analytics. Donc, on va utiliser le cas de Google Analytics. Bien, on est passé de Google Analytics Universal à GA4. Là, on est bien connu plus pour GA4, donc on a transitionné de plus en plus vers, on a pivoté vers GA4. Et donc là, tout d'un coup, on est en train de bâtir dessus en disant, bah, tu nous connais pour les données, BigQuery est lié à Google Analytics 4. Comment est-ce qu'on communique qu'on peut faire des choses dans GA4, mais mieux dans BigQuery? On va publier des articles là-dessus, on va avoir des podcasts, on va parler là-dessus. Tout d'un coup, Google va comprendre et puis il y a un lien. Il y a un fil rouge à travers tout ça. Quand on veut pivoter, c'est ça. C'est qu'on faisait quelque chose et on propose quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être une nouvelle façon de le faire, donc un nouveau livrable. Peut-être que c'est un nouvel angle parce que la technologie a évolué, parce qu'on cible certaines industries, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que le travail qui a été fait avant, d'habitude, c'est une fondation sur laquelle on peut bâtir et étendre l'annexe, en fait. Étendre, vraiment, ajouter la nouvelle corde, entre guillemets, à notre arc, en disant, bah, c'est logique qu'on offre ça maintenant. Point. Donc, si c'est un pivot qui est tellement difficile à expliquer que vous avez du mal, peut-être que c'est une autre marque. Peut-être que, littéralement, il vaut mieux reconstruire parce qu'on va avoir plus de mal à expliquer ou raconter cette histoire, ce changement.
Ça fait plus partie du narratif original.
Et quand je quand je dis narratif original, c'est que il faut bien comprendre que qui vous étiez il y a un an, deux ans, dix ans, c'est pas la même chose de qui vous êtes aujourd'hui. Mais expliquer cette transition, expliquer ces pivots, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire, parce que sinon la confiance, elle disparaît. Pourquoi est-ce que on est les meilleurs à faire ce nouveau service? Eh bien, parce que si on regarde derrière, on voit les fondations qu'on a posées pendant plusieurs années en offrant des choses peut-être plus génériques ou en offrant des choses adjacentes au nouveau service.
Love it. Je voulais qu'on finisse peut-être sur... tu sais, là, on a parlé de pivot, mais je pense que c'est important. Si vous êtes capable de schématiser sur quoi on a discuté, c'est qu'on parle de pivot au moment où on sent la stabilisation. Tu sais, si on voit la business comme faisant partie d'un cycle, il y a différents cycles hein, qui sont, le démarrage. Après ça, bon, il y a une période de croissance, une stabilisation. Puis après ça, on fait souvent un pivot vers... Puis on recommence un cycle. Les pivots, souvent, vont précéder, justement, des périodes de croissance, idéalement, tu sais. Mais je pense que souvent, les gens pensent que la croissance, c'est ce qu'ils désirent plus que tout. Alors que ils oublient que les croissances sont des moments douloureux dans des entreprises. Hein, les moments où on a l'impression genre de se tourner les pouces, c'est la stabilisation. Mais les moments où on est en croissance, c'est des moments qui sont, puis il faut juste penser à n'importe quel type de croissance. Hein, quand vous grandissiez, puis vous étiez ado, on avait mal, on n'était pas beau, il y avait genre tout un tas de choses qui se passaient, c'était le chaos. Fait que tu sais, la croissance est un événement chaotique. Hein, un pivot peut mener à des événements chaotiques. Et à quelque part, c'est là que les systèmes deviennent importants pour se reposer sur des systèmes préexistants qui nous disent, bon, ben quand on rentre en chaos, voici sur quoi on peut mettre pied pour être capable de retrouver un semblant genre de stabilisation. Puis, par exemple, tu sais, un des événements chaotiques qui pourrait arriver, c'est plus de visites sur un site. Hein? Soudainement, ben on a fait le pivot, ça fonctionne, on est dans un bon créneau, puis là, soudainement, ben on arrive dans cette croissance de visibilité. Mais ça peut être vraiment dangereux pour une entreprise. Fait que comment toi, tu... Dangereux dans le sens que ça peut ébranler les systèmes d'une façon à ce que les systèmes soient pas capables de s'adapter à ce type de croissance-là. Fait que toi, surtout qu'il voit plus le back-end de tous ces systèmes-là, comment tu peux te préparer, toi ou tes clients, à ces événements qui seraient comme, mettons, post-pivot?
Alors, il y a plusieurs éléments, OK? Numéro un, j'aimerais bien ramener une citation d'un de mes amis qui est aussi expert SEO à l'international, un Québécois que j'adore qui s'appelle Samuel Lavoie. Et c'est le premier à m'avoir donné un conseil parce que je me plaignais en disant j'ai trop de clients, je ne sais plus comment faire face. Je suis trop stressée. Et quand je dis non, il refuse d'entendre le non. Ah, j'étais jeune hein, et j'étais naïve. Et il m'a dit, quand tu as trop de demandes, il est temps d'augmenter ton prix. Donc, il y a certaines choses comme ça où quand on a trop de succès, encore une fois, c'est peut-être un signal, plutôt que de brûler ou d'augmenter les revenus à fond, qu'on veut peut-être travailler moins, mais faire du qualitatif et donc on augmente les prix. Un autre élément à considérer dans ces moments-là, dans ces moments chaotiques, c'est qu'il y a deux avenues de développement. Ou on élargit son offre de service, donc on va ajouter une autre corde à son arc, mais on le fait de manière très réfléchie en termes de... c'est des vases communicants. Donc, si on va ajouter une nouvelle corde à son arc, il faut que la clientèle, elle reste toujours la même. On ne veut pas ouvrir et la clientèle et les services parce qu'on risque de se retrouver avec beaucoup, beaucoup de gens qui vont faire des demandes, mais peu de contrats signés parce qu'on n'est pas assez spécifique. Donc, c'est important de bien comprendre qu'il y a deux avenues de développement. On ajoute une corde à son arc ou... on va aller chercher à desservir des nouveaux secteurs ou des nouveaux marchés qui peuvent être bénéfiques. Mais il ne faut pas faire les deux en même temps. Ça, ça va à l'encontre, entre guillemets, de la stabilisation. Ça peut peut-être aider la croissance, mais est-ce qu'on a les reins pour faire tout ça et le faire de manière vraiment qualitative sur le long terme? La plupart du temps, la réponse est non. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, pour avoir un bon système quand on est en train de croître ou de se stabiliser, l'un ou l'autre, c'est qu'on règle des problèmes. Donc, pour trouver les bons clients, il faut répondre aux bons problèmes. Et j'ai un ami qui demande plusieurs milliers de dollars US par jour. C'est vraiment le caniche de compétition, genre pédigré jusqu'à l'arrière-arrière-grand-parent, le Westminster Show. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu es capable de demander autant d'argent par jour? Il m'a dit, parce que moi, je ne suis pas là à faire du SEO. Je ne suis pas là à faire du marketing. Je suis là à régler des problèmes pour des gens qui ont les moyens de payer pour que ces problèmes compliqués soient réglés. Je ne suis pas là pour le reste. Et j'ai peut-être deux clients comme ça. Mais ces deux-là, ils sont prêts à payer mon taux à moi. Donc, il faut bien comprendre que pour trouver les bons clients d'une entreprise, il faut répondre aux bons problèmes. Et si le système il n'est pas orienté à régler les problèmes des gens, aucune chance de croissance, aucune chance de stabilisation, ça va toujours être le chaos.
Oui, exactement, parce que la croissance, puis je pense que les gens font l'erreur de penser que croissance veut dire augmentation de revenus, mais la croissance, c'est pas nécessairement la partie où on fait les revenus. La croissance, c'est le moment où on fait des investissements. La croissance, c'est le moment où on met le plus de travail pour s'assurer que, justement, il y ait une stabilisation qui va suivre ce chaos-là, parce que ça peut très bien partir en vrille et on n'est plus capable de contrôler la machine.
Et ça amène à un autre point aussi, c'est que dans ces systèmes-là, il faut bien prendre en compte, moi je le sais, je vois et je vis la dualité. Parce que je suis très entrepreneuse, je vais prendre des risques, je vais penser au pivot et je vais tout mettre en place pour les pivots. Mais ça fait mal, c'est difficile et le retour sur investissement arrive plus tard, bien entendu. Donc, on peut avoir des débuts encourageants, mais on prend des risques. Et je sais que au sein de mon entreprise, je vis l'opposé avec mon partenaire qui fait très attention et très conservateur. Mais c'est aussi la personne qui va être la force stabilisante de l'entreprise. Donc ça, c'est important parce que sinon, on pivote dans tous les sens au point où on devient une boussole. Ça, ça ne marche pas non plus. Mais il faut aussi se poser la question dans les systèmes de croissance et de stabilisation. Est-ce que tu en as marre de faire une certaine tâche? Est-ce qu'on peut l'externaliser? Est-ce qu'on peut la repenser pour que ça soit quelque chose d'utile et en demande sans pour autant se pourrir la vie, sans pour autant perdre du temps, sans pour autant perdre de la valeur ou de la diluer? Donc, ces systèmes-là, il faut aussi considérer, est-ce qu'on va retravailler le onboarding des clients? Est-ce que la pipeline des ventes va être pensée? Est-ce qu'on va avoir certaines choses qui sont automatisées parce que ça nous aide? Est-ce que, par exemple, on en a marre de faire ça, donc on va éduquer les clients, leur apprendre comment le faire, comme ça, nous, on peut faire autre chose? Donc, ce côté-là, ces systèmes-là aussi, ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, on réfléchit, est-ce que les clients, la demande, l'offre, tout ça, ça se cristallise en termes de « je dois ajouter une nouvelle corde à mon arc ». Est-ce que je dois desservir des nouveaux marchés ou des nouvelles clientèles? Ou est-ce que tout va bien, mais maintenant, j'arrive à une phase de stabilisation? J'arrête de faire quelque chose à la main de manière artisanale et à toujours répéter les mêmes choses et je systématise.
Exact. Parce que la stabilisation permet de réutiliser l'énergie qui était mis dans ces systèmes-là et de la réinvestir. T'sais, fait que ça reste, puis j'en reviens avec, je replug Autopoiesis ici, ça revient à est-ce que l'entreprise est capable de faire ces pivots-là, entre guillemets, en réinvestissant constamment la bonne énergie de la bonne façon pour voir un progrès.
Et j'ai une anecdote par rapport à ça que je trouve assez importante. J'ai travaillé avec des entreprises qui avait capitalisé sur le momentum d'une autre entreprise. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise qui a acheté un petit projet. Donc, un développeur avait un side project. Ils l'ont acheté alors que le projet commençait à avoir sa notoriété. et ils ont fait grandir le projet. Mais il n'était pas à la genèse du truc, un peu comme Elon Musk avec Tesla. Donc c'est très compliqué quand on fait grandir quelque chose mais qu'on ne sait pas comment le succès est arrivé. Comment est-ce qu'on a construit cette image de marque par-dessus la fondation, de pivoter ou de lancer une autre affaire ? Parce que là, on prend des risques à l'aveuglette. Donc c'est très important de bien comprendre, oui, le marché, mais aussi quelle est notre place dans le marché. Quelle est notre image de marque? Comment est-ce qu'on capitalise dessus? Et est-ce qu'on est capable d'avoir une autre branche ou une autre corde à notre arc? Mais bref, il faut savoir d'où vient le succès pour pouvoir construire dessus. On ne peut pas dire « Ah ben, j'ai eu de la chance ».
Exactement. Et là, c'est là que ça devient vraiment très intentionnel, l'entrepreneuriat. Myriam, je trouve que ça a fait une belle conclusion à ces deux épisodes de podcast qu'on vient d'enregistrer. Et en plus, je sais pas, à chaque fois que je te parle, j'ai l'impression que tu connais exactement où je m'en vais dans mon, dans mon entreprise. Parce que tu fais de la pub pour genre mes prochains programmes en ce moment avec tout ce que tu dis, parce qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Puis je pense que c'est dans cette direction-là qu'on veut aussi éduquer les gens à aussi sophistiquer leur connaissance de leurs systèmes entrepreneuriaux. Puis des systèmes, ben c'est pas juste ton SEO, c'est pas juste ton brand, c'est pas juste, tu sais, tout fait partie de cet écosystème-là qui doit travailler ensemble pour être, pour permettre l'évolution et l'antifragilité dont on parlait tantôt. Redis-nous encore une fois où on peut te suivre, et si tu as un mot de la fin, naturellement, là, on serait heureuse de l'entendre.
Alors, on peut me retrouver sur le web. Donc, mon entreprise s'appelle Pragm, P-R-A-G-M. Si vous avez besoin de formation pour développer certains systèmes SEO ou Analytics, je suis la bonne personne. Si vous voulez retrouver des astuces, c'est sur LinkedIn que ça se passe, à mon nom, donc Myriam Jessier. Et sur le mot de la fin, eh bien, en fait, j'aimerais bien le donner aux auditeurs et aux auditrices. C'est que moi, je veux tout savoir des pivots que vous avez pris. Et qu'est-ce qui a été payant et qu'est-ce qui l'a pas été, en fait? Parce que je me doute qu'on n'est pas les seuls là, à se parler de pivot. Donc, je suis vraiment curieuse.
Ouais, n'hésitez pas à taguer Myriam et moi sur LinkedIn avec vos commentaires. On veut savoir, on veut participer à la conversation et que vous participiez à la conversation aussi. Myriam, merci encore. Ton intelligence est un baume à mon cœur. J'adore te parler et voilà, love story avec Myriam. Merci d'être venue encore sur le podcast.
C'est un tellement beau compliment, un tel beau bon mot de fin. Bref, merci et à bientôt pour une prochaine aventure.
À bientôt pour la prochaine conversation. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple, navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.